Voici les titres du journal.
Les Valaisans ont été une fois et demie plus nombreux à rendre un bulletin nul lors des votations fédérales d'hier. En cause, la mise en place pour la première fois des étiquettes anti-fraude. Bilan du système dans ce journal. Si le tour des Dents du Midi est encore inaccessible à cause de la neige, il est possible de tenter le tour de la vallée d'Illier. Une randonnée sur plusieurs jours inaugurée samedi par l'association qui a porté le projet. Les Suissesses et les Suisses se mobilisent une nouvelle fois en ce 14 juin avec trois rendez-vous aujourd'hui à travers le territoire. À midi pour le repas, à 15h19 et puis à 18h pour la manifestation. En tennis, Novak Djokovic a remporté son 19e titre du Grand Chelem hier et en automobilisme, Sébastien Buemi enregistre encore de belles performances en championnat du monde d'endurance.
Et c'est du soleil et de la chaleur qui nous attendent pour cet après-midi et même pour demain. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Isabelle Bertolini. Bonjour Isabelle.
Bonjour Axel et bonjour à tous. Les Valaisans, tout comme les Suisses, étaient appelés aux urnes. Hier, elles devaient se prononcer sur 5 objets fédéraux. La loi Covid-19, celle sur le CO2, les mesures de lutte contre le terrorisme et les deux initiatives phytosanitaires. Pour la première fois en Valais, les citoyens devaient utiliser les étiquettes anti-fraude. Étiquettes qui doivent être collées sur la feuille de réexpédition à côté de la signature. Didier Morard, quel premier bilan peut-on tirer de ce système?
On peut simplement donner les chiffres du nombre de bulletins nuls. En moyenne cantonale, ils ont été multipliés par 1,5 en comparaison avec les dernières votations fédérales de mars dernier. Dans notre région, les Montaisans ont été les plus attentifs au nouveau système. Les bulletins nuls ont passé de 86 à 127 seulement. À Colombey-Murat, le chiffre a été multiplié par 3, tout comme à Val-d'Illier. Notons que la palme du mauvais élève revient à Port-Valais avec 5 fois plus de bulletins nuls.
Didier, rappelez-nous pourquoi ce système a été mis en place.
Il faut remonter en 2017 lors des élections cantonales pour connaître les raisons de la mise en place de ce système. Ce scrutin avait été marqué par une fraude électorale dans le Haut-Valais. Un sympathisant UDC avait subtilisé des enveloppes de vote dans les boîtes aux lettres des particuliers. Il les avait ensuite remplies avant de les réexpédier. Démasqué, l'auteur a été condamné à 12 mois de prison avec sursis. Mais cette affaire avait aussi trouvé un écho au Grand Conseil valaisan. Le CSPO, l'un des deux groupes PDC du Haut-Valais, s'est estimé lésé par la situation. Le détournement de ses bulletins lui aurait coûté un siège lors de cette élection. Le parti demandait un recomptage des votes et éventuellement une nouvelle élection. Finalement, le Parlement cantonal a classé l'affaire à contre-cœur et a accepté le résultat de ces dernières élections cantonales.
Mais le Conseil d'État a quand même choisi de prendre les devants en renforçant le système électoral.
En juin 2019, il a décidé d'imposer le collage d'une étiquette sur la feuille de réexpédition, faute de quoi le vote sera comptabilisé comme nul. Mais la mise en place du système a bien failli ne jamais entrer en vigueur. Le Grand Conseil s'est emparé de l'affaire en mai dernier en demandant à l'exécutif cantonal d'annuler ce système, jugé trop contraignant pour les communes. Certains députés craignaient aussi une hausse de bulletins nuls. Finalement, le texte a été refusé par une majorité du Grand Conseil. Les étiquettes anti-fraude sont donc entrées en vigueur hier lors de ces votations fédérales.
Et Didier, comment réagissaient les autorités? Réagissent?
Contacté ce matin, le président de la Fédération des communes valaisannes, Stéphane Coppet, tire un bilan positif de ce système. Selon le Montaisan, la hausse du nombre de bulletins nuls est moins importante que prévu. Objectif à moyen terme, ne pas dépasser les 2% de bulletins nuls, un taux qui ne met pas en danger la démocratie, selon Stéphane Coppet, qui demande aux communes de continuer à informer la population lors des prochains scrutins. De son côté, le chef du département de la sécurité, des institutions et du sport, Frédéric Favre, avait plaidé en mai dernier pour la mise en place du système. À la question ces nouvelles étiquettes entraîneront-elles une hausse massive des bulletins nuls? Le ministre PLR avait répondu qu'il fallait essayer pour répondre à la question. Le conseiller d'État s'est également engagé à faire le point sur le système avant la fin de l'année et de corriger le tir en cas de besoin. Affaire donc à suivre.
Oui, merci Didier pour ces explications. Prochaine utilisation de ces étiquettes pour les Valaisans, les votations fédérales du 26 septembre. Et puisque l'on parle votation fédérale, revenons justement sur les résultats d'hier. 2 oui et 3 non. Les Suisses ont accepté la loi Covid et les mesures de lutte contre le terrorisme. Ils ont en revanche balayé les deux initiatives destinées à limiter l'usage des pesticides dans l'agriculture. Une majorité des votants, 51,6%, a également rejeté la loi sur le CO2 et sa panoplie de mesures destinées à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Quel impact pour le climat? Est-ce un mauvais signal envoyé à la communauté internationale? Notre correspondant à Berne, Serge Juban, a posé ces questions à une climatologue de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich. Sonia Sénéviratné participe notamment à la rédaction des rapports du GIEC, groupe d'experts internationaux sur l'évolution du climat.
L'aspect qui est très dommageable, c'est que ça veut dire que maintenant, la Suisse n'a donc aucune législation pour réduire les émissions de CO2, alors que la plupart de nos voisins en Europe ont une législation en place, beaucoup plus ambitieuse. De ce point de vue-là, je pense que la Suisse a failli à ses obligations.
Est-ce qu'il faut en déduire qu'en Suisse, la conscience climatique, l'urgence climatique ne sont pas si élevées qu'on veut bien le croire ?
Je pense qu'il y a une conscience climatique élevée, mais c'est difficile de savoir exactement ce qui a finalement fait pencher la balance dans ces votations. Peut-être qu'il n'y a pas eu assez de communication sur les enjeux. Il faudra vraiment comprendre en fait pourquoi il y a eu ce nom, mais sur le fil.
Est-ce que vous pensez aussi que les Suisses ont pu se dire que ce ne sont pas des taxes qui vont empêcher la température de monter ?
De nouveau, je pense qu'il y a eu un débat en fait sur les solutions. Enfin, absolument à terme, donc ne plus utiliser des énergies fossiles. Quelle est la meilleure solution ? Je ne peux pas le dire non plus. Moi, je suis climatologue, donc... Si c'est, les taxes ne sont pas le meilleur biais pour le faire, peut-être qu'il y a d'autres solutions pour y arriver. Ça ne changerait en problème que nous continuions d'émettre du CO2. Le plus de CO2 nous émettons, le plus la température va augmenter.
Est-ce que le rejet populaire suisse peut avoir un impact qui dépasse les frontières du pays ? Est-ce que ça peut signifier une forme de coup d'arrêt global à la mise en place, qui parfois est pénible, de mesures pour lutter contre le réchauffement un peu partout en Europe, par exemple ?
Non, je pense pas, parce que quand même, il y a eu une réalisation. Je pense à l'échelle globale. On voit par exemple aux États-Unis, maintenant, la politique a quand même vraiment changé de cap sur ce sujet. Mais c'est clair que ça va pas contribuer à accélérer, disons, le progrès dans ce domaine. Donc c'est dommage. La Suisse ne fait pas la contribution qu'on pourrait attendre d'elle en tant que pays développé, en tant que pays riche. Je pense que c'est surtout décevant pour la Suisse. Ce sera peut-être plutôt une catastrophe pour la Suisse, dans le sens où ce sera très mauvais pour sa réputation.
Les scientifiques dont vous êtes, vous avez certes tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises, mais est-ce que vous n'avez peut-être pas su expliquer, convaincre ? Est-ce que le rejet de ce dimanche, c'est aussi un camouflet à la communauté scientifique ?
Je ne pense pas. Je pense que notre devoir est d'informer sur la science. Nous faisons des rapports depuis, disons, des dizaines d'années. Donc, il y a une urgence climatique, mais finalement, je pense que ce qu'il faut aussi réaliser, c'est qu'il y a des fausses informations de l'autre côté et que c'est très difficile de faire passer, en fait, les vraies informations dans ce contexte.
À votre avis, maintenant, que faire ? Est-ce qu'on peut ne rien faire ?
Non, il est absolument essentiel d'agir immédiatement. Je veux dire, nous sommes dans une crise climatique et, disons, le vote d'aujourd'hui n'y change rien. Et la Suisse a des responsabilités, comme tous les autres pays, de diminuer ses émissions de CO2. La plupart des pays qui nous environnent ont une législation maintenant en place qui semble beaucoup plus ambitieuse que ce que nous avons en ce moment en Suisse. Donc je pense plutôt qu'il y aura peut-être des conséquences pour la Suisse, qu'elle va prendre du retard dans le développement des solutions, des technologies qui sont nécessaires en fait pour passer à ce monde sans CO2. Je pense que c'est plutôt la Suisse qui va en pâtir.
Est-ce qu'on pourrait, à l'inverse, profiter finalement des législations étrangères pour que la température en Suisse n'augmente pas tant que ça ?
Ce serait une politique qui serait quand même très dangereuse pour notre réputation internationale. De nouveau, si on compte sur les autres pour faire les efforts qu'on n'est pas d'accord de faire nous-mêmes, ça semble une politique très égoïste. Je ne pense pas que ça profitera à l'image de la Suisse et c'est dommage.
Et du côté du Parlement fédéral, nombreux sont ceux qui ne veulent pas baisser les bras après ce refus du peuple et chercher une voie sans taxe incitative. Le socialiste vaudois Roger Nordmann, qui avait beaucoup travaillé au compromis de la loi sur le CO2, prône désormais une stratégie secteur par secteur.
Pour la suite, il faudra plutôt fonctionner avec, d'une part, des programmes publics d'incitation qui proposent aux acteurs économiques des soutiens. Et le deuxième aspect, c'est évidemment les normes techniques. Par exemple, pour les normes de pollution des voitures, ça c'était peu contesté dans la loi. Ça c'est quelque chose qu'on peut reprendre. Et puis l'autre chose, on avait essayé de faire un projet cohérent global, mais je crois que maintenant il va falloir y aller par tranche pour que les gens puissent dire précisément « oui, je suis d'accord avec cet aspect, non, je ne suis pas d'accord avec cet aspect ». Genre une tranche bâtiment, une tranche mobilité routière, une tranche aviation par exemple. C'est difficile à dire quelle part des gens qui ont voté non veulent quand même agir pour le climat. Il y en a sûrement. Est-ce que c'est 3%, 10% ou est-ce que c'est 50% de ceux qui ont voté non ? Tendanciellement, ça montre aussi qu'il faut plutôt aller avec des aides à l'investissement plutôt qu'aller avec des taxes d'incitation qui sont mal comprises.
Un dossier préparé à Berne par Serge Jubin.
Retour dans notre région maintenant pour une petite balade.
Partir de Montet, grimper jusqu'à la frontière avec la France au bout de la vallée d'Illier, puis revenir par l'autre versant. C'est ce que propose le Tour de la vallée d'Illier. Long de 60 km, il a été officiellement inauguré samedi au couvert de Frachette à Champoussin par l'association des Amis des Sentiers de la vallée d'Illier, l'ASVI. Un nouveau trait d'union entre les quatre communes, comme l'explique l'ancien président de l'ASVI, Yves Delaunay.
Aujourd'hui, je crois qu'il y a une dynamique qui vient pas seulement de l'association, qui est venue au niveau communal également, même de certaines associations. Par exemple, les jeunes de la vallée d'Illier, ils regroupent toute la vallée. Donc maintenant, il y a un esprit de vallée. Et c'est ça qui est magnifique, je trouve, parce que ça permet aux gens de mieux s'identifier à leur région.
Yves Delaunay est également le producteur exécutif du film La Vallée d'Illier, sorti peu avant la pandémie de Covid et dont la diffusion avait été interrompue.
Maintenant, on est en train de reprendre la question pour faire une diffusion la plus large possible en Suisse et également à l'étranger. Un projet qui est certes ambitieux, mais je pense qu'il rapprochera les gens aussi.
Peut-être aussi l'occasion de rappeler que c'est une région qui est aussi chargée d'histoire.
Mais chaque vallée a sa personnalité, je dirais. Cette vallée, elle a une histoire aussi assez extraordinaire, liée aussi aux relations avec la France, hein, puisqu'elle est toute proche. Également avec un personnage qui a sa statue dans le village de Val-d'Illier, qui est le Gros Bollet, qui a été le premier, en quelque sorte, révolutionnaire de la vallée et qui a, comme dans d'autres vallées, une histoire qui est tout aussi intéressante. Mais je crois que c'est ça qui est fantastique. C'est pas une concurrence d'histoire en histoire, etc. Mais c'est un complément. Chaque vallée a son authenticité.
Le film est disponible en DVD, notamment dans les offices du tourisme de la vallée d'Illier, qui possède également le fascicule pour le tour, un sujet de Valérie Blom.
Certains s'en souviennent, il existait une ère avant Internet.
Et elle n'est pas si lointaine. Dans les années 70, certains s'amusaient à communiquer par radio sur la CB, la Citizen's Band, ou bande du citoyen en français. Et même si la technologie a supplanté ce système, ce dernier n'a pas disparu, grâce notamment à des férus de l'univers de la radio analogique, dont certains se sont retrouvés le week-end dernier à Corberier. Valérie Blom s'y est rendue.
À Corberier, il est 10h. Et pour ce visu entre fanatiques de la CB ou de la radio amateur, ils sont nombreux à être encore sur la route. Grâce à la Citizen Band, ils annoncent leur arrivée ou saluent tout le monde s'ils ne peuvent pas venir. Et actuellement, il y a surtout des hommes qui parviennent au stand tir, de quoi songer qu'il existe un certain profil type du cibiste, comme l'explique l'un des organisateurs de cette rencontre, Christophe Moret.
Je pense qu'il y a un profil type, effectivement, c'est les gens qui ont connu déjà la radio dans les années 80, 70, 80, 90, début des années 90. Après, avec l'arrivée de toutes les nouvelles technologies, c'était devenu un petit peu, on va dire, ça a été mis un peu de côté. Et puis depuis quelques mois, quelques années maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui s'y mettent aussi par l'aspect technologique et puis également par envie de changer de Facebook ou d'autres réseaux sociaux. La phonie, au fait, finalement, c'est beaucoup plus sympa. Il y a une interaction qu'on n'a pas avec des messages et les jeunes s'y remettent maintenant. On a aussi beaucoup de gens qui sont des groupes de 4x4 qui font aussi de la CB, qui s'y mettent aussi. On a encore eu aujourd'hui avec le vendeur qui est là, qui me disait qu'il y avait une recrudescence vraiment de gens qui veulent s'installer avec de la CB. Alors effectivement, il y a un peu moins de femmes, il y a un peu plus d'hommes. Je pense que c'est aussi l'aspect technique qui est peut-être pose un problème, mais quoique, il y en a quand même.
Christophe Morel le mentionnait, il existe des jeunes amateurs de ce monde, même de la radio amateur, qui exige pourtant l'obtention d'une licence. Écoutez l'un d'eux.
Je m'appelle Slény Martinez, mon indicatif c'est HB9GZB. Je suis donc radio amateur depuis 2 ans, gentiment 2 ans. Et puis je suis là justement parce que j'ai 2-3 contacts qui m'ont dit « Ah bah tiens, il se passe un petit événement sympa et tout, ce serait cool qu'on puisse se voir. » Donc voilà, on est là.
Et comment vous êtes tombé, entre guillemets, dans la radio amateur ?
Moi, cette formation, c'est-à-dire que j'ai fait un apprentissage en électronique et mon formateur, HB9FOU, qui est aussi bien pratiquant et tout, qui aime bien ça, propose en fait à tous les apprentis de faire la licence radio amateur pendant la 3e ou la 4e année. Et donc du coup, il nous a proposé, moi j'ai dit pourquoi pas, et au final on s'est retrouvés les 4 de notre année, moi et mes 3 collègues d'apprentissage, à faire la licence en même temps et la réussir tout simplement.
Des vendeurs de matériel sont également de la partie pour ce visu.
amoureux aussi de la vie Citizen Band et qui constate un regain d'intérêt pour le milieu, comme l'explique la propriétaire d'une des enseignes présentes, Anaïs Jaton.
Depuis qu'il y a eu le Covid, alors il y a eu une flambée, et maintenant il y a beaucoup plus de personnes qui se sont remis à la civique qu'on n'avait pas fait depuis 20 ans. Depuis une année, c'est vraiment reparti à la hausse.
Avec son mari Stéphane Jaton, il se passionne pour cet univers et ont forgé des amitiés de longue date.
C'est surtout bien parce qu'on ne voit pas la personne à l'autre bout. Ben, on fait une première conversation, après on se dit, on peut se contacter, on peut se voir. Puis c'est là qu'on se dit, ah bah tiens donc, ah ouais, t'es comme c'est comme ça, puis c'est tout rigolo là. Puis après, ben, on fait des bonnes connaissances.
On crée surtout des amitiés après. Ça fait, quoi, depuis l'âge de 14 ans que tu fais de la radio. Ben, maintenant, il a des liens depuis 14 ans avec des personnes qu'il ne s'attendait pas à rencontrer. Et puis les affinités se font aussi.
Et puis allez, on dévoile quelques petits secrets parce que les utilisateurs aguerris de la CIBI utilisent un code pour raccourcir leur communication. 73 signifie par exemple amitié ou 813 s'arrêter pour boire un jus. Un sujet de Valérie Blom. Le crash d'un planeur et d'un avion de tourisme a fait 5 morts samedi dans le canton des Grisons. Les victimes sont 2 pilotes ainsi que les 3 passagers de l'avion. Les appareils étaient partis des cantons de Neuchâtel et de Turgovie. Pour l'heure, impossible de savoir si les 2 accidents sont liés. Les débris de l'avion ont d'ailleurs été découverts au cours de l'intervention menée sur le site du crash du planeur.
Les Suissesses et les Suisses se mobilisent une nouvelle fois en ce 14 juin.
Avec un regret pour les manifestants, les revendications 30 ans après la première grève des femmes sont toujours valables au cœur de la bataille. La lutte contre le relèvement de l'âge de la retraite, des hausses de salaire et une protection contre les violences sexistes et sexuelles. Les collectifs de la grève se mobiliseront à 3 reprises à travers le territoire, à midi pour le repas, à 15h19, heure à partir de laquelle les femmes commencent à travailler gratuitement du fait des inégalités salariales, et à 18h pour les cortèges et manifestations. Une enquête pour homicide a été lancée dans l'agglomération de Rouen, en France. Un adolescent de 16 ans a été retrouvé mort par la police après une rixe qui a opposé une cinquantaine de personnes hier. L'autopsie doit avoir lieu demain. Selon le ministère de l'Intérieur du pays, 357 affrontements entre bandes ont été recensés en France l'an dernier, en hausse de 25% par rapport à l'année précédente. Et en France toujours, Olivier Duhamel ne sera pas inquiété. L'enquête visant le politologue français qui a admis avoir agressé sexuellement son beau-fils dans les années 80 lorsqu'il était mineur a été classée sans suite en cause. La prescription des faits, l'annonce a été faite aujourd'hui par le procureur de Paris 5 mois après l'ouverture de l'enquête.
Retrouvailles entre l'Amérique et ses alliés aujourd'hui.
Joe Biden est à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN. La séance doit durer 3 heures et permettre de lancer la révision du concept stratégique pour faire face aux nouvelles menaces dans l'espace et le cyberespace. Mais les dirigeants doivent aussi mettre au point un message de fermeté à transmettre au président russe avant le sommet Biden-Poutine du 16 juin à Genève. En tennis maintenant, Novak Djokovic a remporté son 19e titre du Grand Chelem hier, moins de 48 heures après sa victoire sur Rafael Nadal, après 4h11 de jeu. Le numéro 1 mondial a accueilli le titre à Roland-Garros au terme d'une improbable remontada. Le Serbe s'est imposé 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 devant Stefanos Tsitsipas. Novak Djokovic est par ailleurs devenu le premier joueur de l'Air Open à avoir gagné au moins 2 fois les 4 tournois du Grand Chelem.
En automobilisme, Sébastien Buemi enregistre encore de belles performances au championnat du monde d'endurance.
Après la Belgique, l'Aiglon et ses coéquipiers Brendan Hartley et Kazuki Nagajima se sont imposés hier lors des 8 heures de Portimao, deuxième manche de la saison. Malgré une épreuve difficile, notamment sur le plan physique, le Chablaisien et son équipe signent donc leur deuxième succès en autant de courses cette année. À noter la 10e place du team vaudois Realstream, composé du Lausannois Esteban Garcia, du Genevois Mathias Bech et du Français Norman Nato. Prochain rendez-vous mondial d'endurance à les 6 heures de Monza le 18 juillet prochain, avec avant le point d'orgue de la saison, les 24 heures du Mans, évidemment fin août prochain. Et enfin en football, l'effectif de l'équipe de Suisse va subir un changement. L'Euro 2021 est terminé pour le portier obvaldien Jonas Omlin. Le gardien de Montpellier s'est blessé à la cheville droite samedi à l'échauffement avant la rencontre contre le Pays de Galles. Le joueur de 27 ans sera remplacé par Gregor Kobel, le nouveau gardien de Dortmund qui ne compte aucune sélection, rejoint la Nati aujourd'hui à Rome.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch.
La météo avec Néo, agence immobilière sans commission. Estimez votre bien sur neo.ch.
Du soleil et quelques rares cumulus en montagne, c'est votre programme météo pour cet après-midi avec des températures qui vont grimper jusqu'à 30 degrés en plaine, 27 à 1000 mètres. Pour demain, toujours ce temps ensoleillé mais avec des développements de cumulus plus francs l'après-midi, surtout en direction des Alpes, et un foyer orageux n'est pas exclu en soirée. Il va faire demain jusqu'à 31 degrés en plaine, 26 à 1000 mètres. La météo à 6 jours, radiochablais.ch.